Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à tous les passionnés du vin, mais également de la modération. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission délocalisée. Nous sommes chez le caviste Nicolas à Paris. Vous écoutez d'ailleurs le numéro 1057 d'Invino depuis sa création en 2004. On vous souhaite un excellent week-end, notamment aux auditeurs qui nous écoutent par exemple à Corté, en Corse, sur 99.6. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook Invino et le compte Instagram Invino Sud Radio pour partager vos coups de cœur. Aujourd'hui, un très joli programme. On parlera bien sûr avec modération de l'île de beauté avec le domaine Saint-Miguel. On parlera également de Vino Quiz pour gagner un coffret de la marque Divine et Siflute également Exaltation de la marque Chef et Sommelier. On va se régaler en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, on les adore, tout le monde les adore d'ailleurs. Hélène Piau, on commence par vous Hélène, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour.
Bonjour, moi aussi
ainsi
je vous
que,
adore.
Bah oui, on s'aime tous là. Philippe Aubrac, on aime tous les vignerons. Philippe Aubrac, auteur de beaucoup de choses et notamment du dernier ouvrage qui s'appelle Accord Vins Aimés. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Il
n'y
a pas de prochain bouquin qui est en cours là?
C'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal. Vous avez écrit combien là?
Une douzaine.
Une caisse de 12 quoi. Voilà.
Et bon. Le dernier a reçu le Grand Prix de l'OIV, j'en suis
ah, bien
très
sûr.
Heureux.
Bravo.
Et très
bravo,
fier de
félicitations.
Ça avec tous nos auditeurs.
Alors, une vidéo Sud Radio a le plaisir d'accueillir pour débuter cette jolie émission, la dernière hein, de ce mois de novembre 2021, Nelly Boiset, propriétaire du domaine Valis Petra. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Alors, racontez-nous votre jolie histoire de vin. C'est une histoire de famille du côté de Vaqueras avec une touche féminine très prononcée.
Très prononcé, c'est vrai. Dans les cuvées et aussi dans le travail de tous les jours, parce que je suis vigneronne et j'ai une salariée. Donc nous sommes deux sur le domaine, uniquement féminin. Ça se fait par hasard, ça ne s'est pas fait...
C'est vous qui l'avez créé le domaine?
Oui, ou... oui, oui.
C'était en quelle année?
En 2017.
Et c'est un changement de vie? Vous avez oui. perpétué une tradition
enfin,
familiale
je suis vigneronne depuis plus de 25 ans.
Vous ne les faites pas?
Non, merci.
Et alors, pourquoi Vaqueras, même si votre accent est magnifique?
Oui, pourquoi Vaqueras? Parce que c'était mes grands-parents qui étaient déjà implantés sur Vaqueras et
d'accord.
j'ai repris le domaine de mes grands-parents.
De votre grand-mère, je crois, Juliette.
C'était quoi, de 2007,
oui,
c'est ça?
Tout à fait. Oui.
Hélène?
Alors, effectivement, donc c'est votre grand-mère Juliette qui vous a inspiré. Et ce domaine qui est éminemment féminin, puisque vous êtes effectivement accompagnée désormais par Céline.
Oui.
Alors, ben, racontez-nous, les cuvées sont féminines aussi. Le terroir est féminin. Qu'est-ce qui est féminin chez vous?
Oh, beaucoup de choses. Je pense le vin, le caractère du vin. Et puis, voilà, une passion. Qui est partagé, qui enfin, voilà, le métier s'est féminisé. Et j'adore ce que je fais. Je le fais par passion. Je le fais pas parce que.
Combien d'hectares vous avez au total?
J'ai 10 hectares.
Donc vous bossez à deux avec votre collaboratrice oui. Nadeli sur 10 hectares.
Tout à fait.
Et vous faites tout.
Je fais tout.
C'est incroyable.
Tout à fait.
Donc
le
quand il fait 3 degrés
sol,
là, janvier avec un petit machin pour couper les tout.
La taille, tout.
Philippe Forbach, il y a beaucoup de femmes qui gèrent 100% d'un domaine comme Nelly et sa collaboratrice qui se prénomme comment?
Céline.
Céline, on l'embrasse Céline.
Je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus. Peut-être que vous allez pouvoir nous aider.
Oh, il y en a très peu,
mais,
je pense.
Mais il n'y en a pas beaucoup, non.
Ouais.
Il y en a pas beaucoup. D'ailleurs, il y a plus de femmes dans ce métier, c'est clair.
Oui. Et ça, c'est
dans
bien.
Toutes les caves, dans toute la filière du
oui.
vin, il y a beaucoup de femmes.
Oui.
En sommellerie, il y en a de plus en plus.
Oui. Dans mes je pense que c'est d'ailleurs que c'est là où c'est, ça a commencé.
La sommellerie.
Oui, la sommellerie.
Je pense que
beaucoup plus féminin que le reste du métier.
Un
oui.
élément déclencheur. Ah,
les cavistes de plus en plus.
C'est vrai aussi.
Aussi.
On accueille régulièrement Christelle Tarret ou Alessandra Fotorino ici.
Oui. Dites-nous, Nelly, ce mythe du vin féminin, il existe ou pas?
Pourquoi pas?
Mais c'est quoi un vin féminin? Alors allons-y.
Vous savez que c'est risqué à la Martyre comme question.
Non, je vais me faire morte par Hélène, d'accord?
c'est la finesse, une délicatesse, voilà, une expression du caractère aussi.
Que n'a pas un vin masculin, je suppose.
Oui.
J'entends des choses qui sont
allez-y, allez-y Hélène.
D'autant plus que les Vaqueras de Nelly au domaine Valis Petra sont aussi costauds, sont aussi charnus, sont aussi généreux que peuvent l'être les hommes quand ils sont bien élevés et blancs et je suis pas certaine moi de cette histoire de vin féminin et de vin masculin.
Moi non plus.
Mais ce que je sais c'est que effectivement c'est un peu un domaine girls power et c'est très très bien surtout qu'on revient de loin parce qu'effectivement quand vous avez commencé à vinifier par exemple vous vous êtes fait refuser une cave parce que vous aviez vos règles.
C'est ça, tout à fait.
C'est quand même complètement dingue. Alors je précise à nos amis auditeurs que ça m'est arrivé à moi aussi en tant que journaliste.
C'est ça, un jour, voilà, je me suis fait refuser. Mais c'est vrai. Il faut le raconter pour le. Il faut l'avoir vécu pour le raconter.
Mais c'est ça. Mais heureusement qu'on est plusieurs à le dire parce que la première fois qu'on raconte ça dans une assemblée, on dit non, mais tu charries avec ton féminisme. Non, non. Toutes les femmes qui travaillent dans le vin et on n'est pas des dinosaures. Ça nous est arrivé à toutes qu'on nous dise vous êtes comment, vous êtes bien disposées. Moi, j'avoue que j'ai posé.
Ça évolue, Hélène, dans le bon sens.
Oui, oui, oui.
Heureusement, depuis les règles ont changé. Heureusement.
Allez, on revient. Alors, les cépages, vous avez quoi comme cépage, Nelly? Dites-nous.
Alors, en vin rouge, les vins classiques, la vallée du Rhône, hein, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Et puis après, je fais aussi du Vaqueras blanc.
Vaqueras blanc, c'est tout petit, ça, en pourcentage,
non? Oui, tout petit, 5% de l'appellation
Vaqueras. Un peu comme Châteauneuf du Pape, Philippe. Hein,
on va être dans le même pourcentage, et d'ailleurs dans le même esprit.
Oui, dans le même esprit, hein, ça se ressemble beaucoup. Donc là, dans les cépages, Viognier, Roussanne, Marsanne et Bourboulenque.
Et Bourboulenque, quoi. Donc, et vous en produisez vraiment 5% ou un peu plus sur votre domaine?
Moi, sur mon domaine, non, ça représente à peu près 30%.
Ah, quand même, oui. Donc vous avez une offre, vous avez du rosé aussi?
J'ai un petit peu de rosé, oui. Je ne fais pas chaque année, mais j'en fais un petit peu.
D'accord. Oui. Hélène?
Et puis, il y a ces 4 cuvées de rouge, quand même, dont il faut parler.
Aussi.
Donc, Intuition, L'Opre de Juliette, Symbiose et Sous la Robe. Alors, l'Intuition, je vois bien ce que c'est, la Symbiose aussi, mais L'Opre de Juliette
non,
et Sous
ça,
la
c'est,
Robe.
Non, L'Opre de Juliette, c'est un Vaqueras blanc.
Ah, Opre, c'est un blanc, d'accord. Oui. Ah, et ça se prononce Opre, d'accord.
Oui,
parce
Opre.
Que moi, j'avais L'Opre, et je me disais, qu'est-ce que c'est que L'Opre, O-P-R-E. C'est Opre de Juliette.
Opre de Juliette.
Opre de
d'accord.
Juliette.
Voilà. Je ne l'avais pas, alors je comprends mieux.
Et Sous la Robe, quand même, parce qu'on va attaquer quand même le vif du sujet, non?
Sous la Robe, oui. Mais c'est une touche féminine aussi, voilà.
D'accord, donc il n'y a pas d'histoire d'avocat.
Non, il n'y a pas d'histoire d'avocat. Ni...
Ah bon, d'accord.
Voilà. C'est juste un vin qui en a sous la robe.
C'est ça.
Voilà.
À découvrir.
Il faut assumer vos propos, Hélène.
J'assume tout, absolument. Et on va parler également de la cuvée Petit Bonbon.
Oui, le Petit Bonbon, un muscat.
Un joli muscat.
Oui.
Alors, on en parlait tout à l'heure. Les gens qui viennent vous voir et qui goûtent vos vins repartent tous avec une bouteille de muscat ou vous disent au contraire, ah non, le muscat, c'est sucré, j'en veux pas. Ça se passe comment, la vente
c'est,
de muscat?
Le muscat, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas, je crois. C'est soit un coup de cœur et voilà, on tombe amoureux et on y revient. Soit on n'aime pas les vins sucrés. Et on
oui, c'est ça. Quand on est réfractaire aux vins sucrés, c'est pas la peine de le goûter à la limite. Hein, c'est au passé directement. Et les vins rouges, potentiel de garde, vous créez des vins pour être dégustés dans peu de temps, 5 ans ou alors
il faut prendre un petit peu de temps pour le Vaqueras, il faut attendre qu'il s'épanouisse et, il faut entre 3 et 7 ans voilà.
3 et 7 ans quoi. Oui. Philippe Forbach, cette notion de soyeux, les tanins qui commencent à être un peu fondus, il faut l'attendre un peu le Vaqueras, ce n'est pas un vin facile.
Ce vin qui reste accessible quand même, mais 3 ans c'est peut-être un peu tôt. Moi
je préférais
plutôt
aussi.
5 à 8 ans davantage parce qu'effectivement au début, alors ça dépend de l'encépagement, mais quand il y a des mourvèdres.
Il est très masculin pour faire plaisir à Hélène.
Des grenages généreux, quand il y a des syrahs un peu poivrés, etc. C'est agréable de le goûter sur son fruit, entre guillemets, mais si on veut vraiment avoir l'expression du terroir, si on veut vraiment avoir cette évolution, et cette finesse, il n'y a que le temps qui peut aider à ça. Donc oui, 5, 6, 7 ans, et même autour d'une dizaine d'années, moi personnellement,
on peut attendre,
plupart des millésimes, une dizaine d'années, je trouve que c'est le point d'orgue un petit peu pour apprécier.
Et quand il est un petit peu trop jeune, il faut quoi? Le carafer, vous conseillez? Vous imaginez dans un restaurant, il y a un millésime qui a 3 ans, bon, on veut goûter quand même le Vaqueras de Nelly, faut l'attendre un petit peu quand même le maximum?
Il faut l'attendre dans la mesure du possible. Après, le carafé, ça aide, bien entendu, à assouplir un peu les tanins, à faire ressortir davantage les parfums. Voilà. Après, le carafage, ça ne peut pas non plus...
faire de miracles.
Mais ça ne change pas, on ne gagne pas 10 ans en carafant le vin.
On peut jouer sur ce qu'on mange avec à ce moment-là.
Absolument. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs, tiens Nelly, comme type de vin, comme type de plat plutôt pour accompagner
Par exemple, un gigot d'agneau.
Un gigot d'agneau, ça marche bien.
Oui,
avec votre rouge ou votre blanc?
Avec le rouge.
Avec le rouge.
Oui. Avec des légumes racines, c'est pas mal.
Exactement.
Avec des panais, des betteraves. Oui, ça peut aller très bien.
Il y a une recette que j'adore avec votre style de vin, c'est de l'agneau, alors gigot ou une autre partie, mais désossé, roulé, en rôti avec un peu de tomates séchées et d'olives noires. Je trouve que le côté tapenade, notamment l'olive noire.
Ça marche très bien. Avec là,
on a de plus en plus faim, Philippe, arrêtez de parler parce que là, on va bouffer le micro. Là.
Ça donne fait. Avec un peu d'huile, quelques herbes.
C'est l'heure quand même, c'est l'heure.
Moi, j'adore dans ces régions, c'est l'odeur. Bien sûr, on sent le vin,
l'odeur, la garrigue. Voilà,
quand on va dans la garrigue, quand on va faire le tour des vignobles.
Ça, le romarin, le thym.
Mais oui, c'est un bouquet garni.
permanent. Et puis, surtout quand il fait chaud, que la roche, notamment des dentelles de Montmirail, reflète ses rayons, c'est odorant à souhait, c'est génial.
Et tous ces bonheurs-là ne coûtent pas très cher, puisque notre gamme va de 11 à 16 euros environ.
C'est ça.
Donc en plus, on peut se faire plaisir pour effectivement pas très cher. Des vins qui se gardent 7, 8, 10, 12 ans à 10, 12 euros, il n'y en a pas tant que ça.
Il y a une vraie personnalité. Et on peut les trouver où, vos vins d'ailleurs ?
Eh bien, chez moi, au caveau.
On peut passer, vous dire bonjour, coucou, vous êtes ouvert toute l'année ?
Oui, sur rendez-vous.
Sur rendez-vous, d'accord.
Forcément, je ne peux pas être partout.
Mais oui voilà. Vous n'êtes que deux à travailler sur les 10 hectares. Quoi.
C'est ça.
C'est exceptionnel ce que vous faites quand même.
Merci.
Et vous prenez quoi, des gens pour vous aider pendant les vendanges quand même ?
Bien sûr. Ouais.
Là, vous êtes combien ?
Oh, pendant les vendanges, on peut être jusqu'à 10, voilà.
Il y a deux moments importants, enfin, je veux dire, qui demandent de la main-d'œuvre en tout cas. C'est les vendanges, que vous évoquez, et c'est la taille.
La taille, on l'a fait que toutes les deux.
Et toutes les deux, la taille, c'est un sacré boulot, bravo, parce que franchement.
Vous avez pas trop mal au dos, parce que ça.
Les mains,
vous avez des mains très féminines pour quelqu'un qui taille.
La taille, c'est pas encore, c'est 21 de début l'année prochaine.
Bon, vous avez fini votre analyse de l'anatomie de Nelly.
Mais c'est important. Pour les auditeurs qui ne sont pas spectateurs, il faut que l'on.
Exactement, vous vous dévouez, c'est bien, Philippe. Hélène.
Donc, on disait, on peut goûter les vins au domaine en venant vous voir. On goûtera au passage aussi votre huile d'olive et votre vinaigre balsamique.
Ah oui.
Tout à fait.
Il y a du vinaigre balsamique aussi ?
Oui.
Mais là, il est balsamique ou... est-ce qu'il est sucré, c'est ça ? Parce que vous dites balsamique parce que...
Oui, il est sucré, c'est la façon d'eux, mais c'est pas balsamique comme celui d'Italie.
D'accord.
C'est autre chose.
Donc vous n'avez pas marqué balsamique sur l'étiquette, je suppose ?
Non, c'est une façon de le faire, le vinaigre. C'est pas une appellation.
C'est pas une appellation. Voilà. Voilà. Donc il est un peu sucré. Donc vinaigre de vin, mais
de
sucré.
De muscat.
Voilà, c'est ça.
De muscat. C'est sympa, ça.
C'est vrai que c'est une jolie originalité, effectivement. On en profitera en venant chez vous pour découvrir également le rosé, les prémices d'Anaïs.
Ah, c'est mignon.
Et puis il y a tellement de choses à voir chez vous. On peut commencer par aller voir le site internet.
Absolument.
Ça donne déjà une bonne idée. Alors, valispetra.com, ça s'écrit valispetra.com.
Et 2021, ça va être une année sympa, vous n'avez pas trop souffert ?
Oui, un peu par le gel, mais après la qualité est là, donc je pense qu'on va sortir de belles choses.
Donc, tant blanc qu'au rouge, vous êtes optimiste.
Oui. Oui.
Bravo Nelly, ne change rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous Hélène et Philippe Orbach. On se retrouve dans un instant, nous serons toujours chez le caviste Nicolas à Paris, à 31 Place de la Madeleine pour cette émission qui est délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner un coffret Divagne et puis 6 flûtes Exaltation de la marque Chef et Sommelier.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On retrouve maintenant Philippe Forbach et puis le Vino Quiz, Philippe.
Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret Divagne, 6 flûtes Exaltation de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était, rappelez-vous, sur quelle appellation du Beaujolais, Christophe Lançon, propriétaire du domaine L'Air Loup, possède-t-il des hectares ? Réponse A, l'appellation Fané. Réponse B, l'appellation Fleury. Réponse C, l'appellation Bourgeon.
Très compliqué comme
la
question.
La bonne réponse était la B, l'appellation Fleury.
Alors cette semaine, Philippe ?
La question du week-end. De qui Nelly Boissel hérite-t-elle du domaine Valispetra dans la vallée du Rhône ? Réponse A, d'un certain monsieur Petra. Réponse B, d'un inconnu rencontré dans la rue. Pourquoi pas, hein ? Réponse C, de sa grand-mère, Juliette. Pour répondre et gagner un coffret Divagne, les 6 flûtes Exaltation de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. J'espère que vous serez tirés au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Philippe Orbach. Invino Radio a maintenant le grand plaisir d'accueillir Jean-Paul, c'est comme ça qu'on dit chez vous ?
Oui, Jean-Paul.
Philippe Polidori, bonjour, on parle de Corse là, ça y est.
Bonjour.
Avec une star de la Corse. Racontez-nous là, ce vignoble. Il a été dans votre famille depuis 1704, c'est ça ?
Oui, absolument, oui.
Comment ça s'est passé ? Faites-nous quelques siècles d'histoire en 30 secondes.
En 30 secondes.
C'est jouable, Jean-Paul ?
C'était un vignoble qui appartenait à mon arrière-grand-oncle, Jean-Paul de Rocazère, ce qui n'est pas étonnant en Corse, hein, parce qu'il y a pas mal de Rocazères. Il y a eu un Jean-Paul de Rocazères plus récent qui a fait de la politique.
Exactement, du côté d'Ajaccio.
Voilà. Et il se trouve que la sœur de ce Jean-Paul de Rocazères a épousé un Polydore de Morosaille. Morosaille, c'est le village de Pascal Paoli, par exemple, qui est du nord de la Corse. Voilà. Et malheureusement, ma trisaïeule et son mari sont morts très jeunes. Et mon arrière-grand-père a été adopté par Jean-Paul Polydor, son oncle.
Ah oui.
Et c'est comme ça qu'il est devenu lui-même propriétaire du domaine.
Wow. Alors le domaine, comment il s'appelle? Parce que c'est une star, votre domaine, quoi.
Domaine San Miguel, que M. Forbrac connaît, je crois.
Il a connu quelques-uns, il aime bien la
culture.
D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo de moi avec vous.
Ah ben voilà.
Ou de vous avec moi.
Tous les deux ensemble. Alors,
d'ailleurs, il paraît que Jean-Paul, vous avez une double vie à voile pendant quelques temps, là. Vous étiez parisien avec un drôle de métier, et puis vigneron.
Oui, j'ai eu une double vie, à mon grand regret, d'ailleurs, parce que j'aurais préféré...
Il y a prescription.
Voilà, il y a prescription. Mais il se trouve que quand j'ai commencé mes études de droit, mon père qui était sous-préfet de Sartène, qui ne connaissait rien à la vigne, rien à la terre, qui était un intellectuel, qui n'avait rien à voir avec la culture de quoi que ce soit d'ailleurs, a épousé ma mère. Saveria, Polydor, de
Rocazère. C'est grâce à ça que vous êtes là, quand même. Hein.
Jusque-là, il y a une logique.
Voilà. Et c'est comme ça que le jeune sous-préfet est parti au champ, à la vigne. Il a abandonné sa carrière.
Parce il a changé.
Ah bah oui, parce qu'après Sartène, on l'a muté à Chalon-sur-Marne. Alors autant vous dire que...
Il y a moins de Jean-Paul.
C'est bien, la Champagne.
C'est vrai que... Oui,
c'est pas mal aussi. Donc c'est mon père qui ensuite... Parce que le domaine était tombé un peu en déshérence pendant la guerre, puisque mon grand-père, qui est lui-même mort prématurément en 1943, Jean-Paul, Polydor... Et donc, mon père a remis ça un peu sur pied. Et quand j'ai commencé mes études de droit, mon père était vivant, c'est lui qui s'en occupait, etc. Bon, malheureusement, il est mort lui-même très jeune, en 1967. Mais j'avais déjà commencé mes études de droit, donc j'ai continué mes études de droit.
Donc un peu les deux, quoi.
Et puis, j'ai continué ma carrière d'avocat parallèlement au domaine, puisque très vite, ma mère... qui était une femme charmante, mais enfin, qui n'était pas tellement préparée...
Aux
affaires, vous savez. Bon, les femmes, à l'époque, surtout les femmes corses...
Attention, vous allez faire mordre par Hélène, là, parce que... Elle a des bonnes dents, Hélène.
Comme j'ai dit Jean-Paul,
les femmes
à l'époque. Mais prononcez bien.
Jean-Paul,
il y a 50 ou 60 ans, les femmes n'étaient pas tellement préparées à mener des affaires, donc, si vous voulez...
Mais là, ça va mieux, hein.
Oui,
ça va mieux.
Les femmes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles que...
Vous travaillez en famille, d'ailleurs, aujourd'hui ?
J'ai connu,
pardon. Vous travaillez en famille, aujourd'hui ?
Alors, j'ai ma fille qui est là, qui va s'occuper...
Que l'on salue. Quel est son prénom ?
Marie-Laetitia.
Ah, ça ne s'appelle pas Jean-Paul, ça s'appelle Marie-Laetitia.
En Corse, Marie-Laetitia,
c'est une marquée.
Alors, Marie-Laetitia va s'occuper un peu de la promotion du domaine.
D'accord.
Parce qu'on ne parle jamais de moi, parce que moi... J'ai toujours suivi un adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est vrai que je faisais parler le moins possible de moi. Aujourd'hui...
En venant parler à la radio, là c'est raté, je vous le dis. On va parler de vous.
Oui, mais aujourd'hui on est obligé de revoir un peu ses fondamentaux, parce que malgré tout, la concurrence est plus sévère. Il y a des domaines qui naissent tous les jours. Donc il faut quand même...
Ah, la concurrence.
Il faut absolument qu'on parle de nous maintenant. Voilà.
Oui, bon, il y a des façons de traiter les concurrents, non ? Allez, Hélène.
Je vous en prie, Alain. Alors, effectivement, on a vu donc, les 10 générations qui ont mené au domaine San Miguel. Et aujourd'hui, je le prononce certainement très mal.
Hein, mais San Miguel.
San Miguel.
San Miguel. Mais je vais très prochainement aller passer des vacances en Corse. Et vous allez voir, quand je rentrerai, je serai bilingue.
On vous appellera Jean-Poul Hélène. Quoi,
c'est ça, exactement. Vous m'appellerez Jean-Poul Hélène, ça va très très bien se passer. En attendant, vous avez donc, parallèlement à votre métier d'avocat, restructuré les parcelles, relancé la mise en bouteille. Votre épouse, puisque oui, les femmes travaillent, a développé le réseau commercial hors de Corse. Elle a même occupé le poste de vice-présidente de l'UVA Corse. Comme quoi, finalement, certaines femmes étaient mieux préparées que d'autres. Et puis aujourd'hui, on arrive à ce domaine de 22 hectares, en appellation Sartène vin de Corse, donc, avec les cépages classiques du coin. Je vous laisse les prononcer à la Corse.
Alors... À des cépages que vous connaissez peut-être pas, je sais pas, peut-être Monsieur Forbrac.
Oui, on les connaît tous.
Pas forcément. Même Philippe peut-être les connaît pas.
A priori, on s'y connaît un petit peu en vin. Même les filles, même les jeunes, même les Parisiens. Allez-y.
Moi, je n'ai que des cépages endémiques corse, notamment principalement le Chacarel. Chacarel, qui est le cépage roi du sud de la Corse, qui n'était absolument pas connu dans le nord de la Corse, en revanche. Donc le Chacarel, moi j'ai toujours connu le Chacarel. qui est notre cépage endémique principal.
Ce qui veut dire le grain croquant, hein, je crois.
Oui, c'est un grain croquant. Alors, il a un petit défaut, enfin un petit défaut, qui n'aime pas forcément Il n'a pas beaucoup de couleurs. Il donne des vins. Alors, les vins de Sartène, par exemple, n'ont rien à voir avec les vins de patrimoine, qui, eux, sont majoritairement
Nielouch,
avec du Nielouch, qui donnent des vins beaucoup plus, d'abord, tanniques et beaucoup plus colorés.
En voilà.
Et un peu pour compenser ce petit inconvénient, j'ai mis également un peu de Nielouch, qu'on ne connaissait absolument pas auparavant.
Et il se plaît chez vous
Du temps de mes parents, de Nielouch, on n'en avait pas du tout. On avait en revanche... Ouais. En revanche, on avait plein d'autres cépages corses qui ont plus ou moins disparu, mais qui reviennent aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas éligibles à l'appellation AOP.
Oui.
Voilà. Et je trouve que le décret sur l'AOP a appauvri quand même les cépages corses, dans la mesure où beaucoup n'ont pas été retenus, alors qu'ils le sont aujourd'hui, par exemple.
Le Carcadiol.
Je pense au Minoustead, au Carcadiol que je viens de planter. Là, je viens de planter du Carcadiol.
C'est magnifique.
Mais en 1976, quand j'ai planté, le Carcadiol n'était pas éligible à l'appellation.
Il n'y a pas moyen de faire du hors-piste en faisant des vins qui soient corse vins de Sartène.
On a pas mal de confrères. J'ai pas mal de confrères, notamment M. Abatouch, qui est un cousin d'ailleurs.
Vous êtes tous cousins, non ?
Oui, plus ou moins.
Il y a combien de vignerons en Corse, tiens ?
Combien de vignerons ? Écoutez, on doit être...
En indépendant, on va dire, hors-cop.
Dans l'UVA Corse, on doit être une cinquantaine, je dirais.
Ah, 50 vignerons,
oui. Oui, dans l'UVA Corse. Et après, je dirais une centaine, au moins.
Une centaine,
ouais. Ouais.
Facile.
Ça, c'est beau. En fait, si vous voulez, il y a de plus en plus de vignerons qui s'installent. Lorsque j'ai planté, moi, ma vigne en 1974-75, nous étions à Sartène il y avait une coopérative,
oui.
Bon, mais en vignerons indépendants, nous étions deux. Il y avait Fumigicole et nous, San Miguel.
Et alors, ça fait combien de bouteilles par an au total, dites-nous ?
Bah, tout dépend de la récolte, hein, je vous dirais.
De la nature, bon,
entre 80 et 100 000 bouteilles.
Et vous les vendez quoi, uniquement en Corse ou sur le continent aussi ou...
Principalement en Corse. Mais à Paris, bah ça c'est le rôle de Bénédicte, ma femme.
Il faut suivre la généalogie quand même, Jean-Paul.
Qui a une très belle clientèle à Paris, qui s'en occupe toujours. Elle est en train de passer la main parce que bon.
Mais elle vend que vos vins ou alors elle vend que vos vins ?
Ah oui, que nos vins.
Elle ne va pas vendre les vins des cousins, non, mais vous n'y pensez
jour,
pas, Alain.
Non, mais pour avoir un copain en Champagne, enfin, sans
un
parler.
On discutait chez un caviste, un de ses clients, Il y avait un monsieur qui l'écoutait avec beaucoup d'intérêt et qui lui a dit après, écoutez, j'ai un domaine dans le Bordelais, je vous embauche.
Ah bah, très bien.
Bon. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est une très très bonne commerciale parce qu'elle ne parle absolument pas de vendre.
Elle parle avec son cœur, sa passion.
Elle connaît les noms des enfants, des petits-enfants, des chiens, etc., de ses clients, mais elle ne parle pas de vendre. Et c'est à la fin de l'entretien, en général, on lui passe une commande. Voilà.
Est-ce que je peux vous acheter du vin ? C'est certain qui vend, c'est les autres qui demandent.
Alors parlons un peu des vins rouges, là, pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie ? Ça donne quoi comme type de vin ? Est-ce qu'il y a un potentiel de garde ? C'est à déguster sur la prime jeunesse.
Alors en rouge, on a deux rouges. Donc le San Miguel, qui est le rouge tradition, qui est, comment dirais-je, qui a une cuvaison plus courte, d'abord, que le Polydor, puisque j'ai donc le second vin auquel j'ai donné le nom de ma famille, si vous voulez. Donc le San Miguel a une cuvaison plus courte. On est plus sur le fruit, sur un vin facile à boire, que vous pouvez boire même à la limite frais en apéritif, vous voyez. Ce que font beaucoup de gens d'ailleurs.
Et l'autre plus élaboré, quoi.
Et l'autre qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus élaboré.
Et alors, combien ça coûte les bouteilles pour terminer ?
Alors, ça coûte. Je parle en Corse, hein, parce qu'un des derniers privilèges.
Dites tout, hein, voilà.
Pas le nom en euros, c'est
vraiment c'est ça,
euros,
ils sont passés à l'euro, rassurez-moi.
Non, mais je vous dis en Corse, parce qu'en Corse, il n'y a pas de TVA.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Puis après, on verra la deuxième si on paye en CB ou en liquide. Mais pour l'instant, parlons de la TVA.
En Corse, sur place, le San Miguel, dans mon caveau de vente à Sartène, se vend 10 euros.
Très bien.
Et le Polydor se vend 17 euros.
Merci beaucoup Jean-Paul. Voilà, merci également à Hélène, à Nelly, à un million d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Vous êtes super. En tout cas, on voyage grâce à vous au pays des grands vins aussi. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook Invino et le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On parlera du Languedoc, on parlera du Mont Ventoux. Bref, on va se régaler. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et corse, petit point, et puis surtout respectez la plus grande des modérations. Salut.
Sud Radio Invino.